terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Maka Koto, quand on cite ce nom, on pense à la politique. Ancien ministre de la Culture au Québec, ancien député fédéral et provincial, mais voilà, c'est quelqu'un qui, avant de faire la politique, était surtout un artiste, beaucoup de cinéma, beaucoup de séries télévisées, du théâtre. Et récemment, il a sorti un album, un double album jazz, qui a pour titre Maka Koto Jazz, un album qui a été fait avec l'Orchestre National de Jazz de Montréal. Et je l'ai rencontré pour en discuter, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé là-dedans.
On ne peut pas se tromper sur soi-même. Si j'ai pu tenir tête à mon père, qui voulait que je fasse un vrai métier, comme il disait... Parce qu'à ses yeux, être artiste, c'était pas un métier. Si je lui ai tenu tête, si on est resté longtemps en froid, c'est parce qu'au plus profond de moi-même, je savais que c'était ma passion. Et cette passion-là, elle n'a jamais disparu, même si pendant 14 années d'investissement en politique active, je ne me suis pas trop exprimé sur le territoire des arts. Ça a toujours été là. Et je m'étais fait cette promesse, je passerai pas toute ma vie en politique et qu'à un moment donné je reviendrai aux arts, mais je n'ai pas planifié le retour mais par le biais de la musique.
Oui, tout à fait.
Moi je revenais aux arts soit pour l'écriture, soit pour la réalisation cinématographique et autres, mais le hasard a voulu que un soir de novembre ou d'octobre 2019, je me souviens plus très bien, dans le cadre de l'émission de France Baudouin en direct de l'univers à Radio-Canada, on m'invite à faire la surprise en Tony Cavana, parce qu'on se connaît depuis des années, mais on s'est perdu de vue. Les invités sont toujours des personnes que la cible, c'est-à-dire l'invité principal de l'émission, nomme dans une courte liste. Et j'en faisais partie. Il m'a dit, est-ce que vous pourriez chanter quelque chose? Ils étaient à des années-lumière de savoir que j'avais chanté à l'église, au collège, à Libermann, à Douala, que je fais partie d'une chorale, que j'ai été un fervent serviteur d'église et que je chantais à l'église. Et j'ai dit, ça fait longtemps, c'est la dernière fois que j'ai chanté en public, c'était à l'aube de mes 18 ans, et que revenir devant un public chanter, ça m'inspire pas trop. Alors c'est ma conjointe Caroline qui a insisté, les gens se prennent pas au sérieux dans cette émission, ils chantent, ils s'amusent, et France, au moment des répétitions, m'a dit, je sens que vous êtes un peu inquiet. J'aime pas être ridicule, je lui ai dit. Elle me dit, mais non, vous en faites pas, si d'aventure vous plantez, il y a toujours une couverture derrière de choristes et tout ça, c'est... Ok, bon, ben on va s'amuser. Et aux répétitions, je voyais leur visage dans la salle. C'est quelque chose qui m'a frappé, mais je pensais que c'était un hasard. Ils souriaient, ils avaient des yeux, des regards étincelants en écoutant le gospel que je chantais. Et le lendemain, à l'enregistrement, pour les enchaînements techniques, pareil. Alors là, je me dis, ok, je pense que j'ai pas perdu la voix.
Ok.
Pour parler ainsi.
Ouais.
Et après l'enregistrement de soir, avant même la fermeture de l'émission, France me dit devant tout le monde, il faudrait que tu songes à chanter pour vrai, parce que ça fait du bien de t'entendre. Et là, le lendemain matin de la diffusion, le lendemain matin, c'est Paul Hood qui me fait appeler à la maison par le biais de quelqu'un qui avait les coordonnées de Caroline, qui vient me réveiller. Moi, je suis un oiseau de nuit, donc je me couche tard, mais je me lève également tard. Et il était 7 heures à peu près, et Paul avait vu l'émission et était très enthousiaste et émerveillé. Il me dit, il faudrait que vous songiez à faire un album.
C'est,
oui, oui. Alors, ça c'est le matin, l'après-midi, je reçois un message sur Messenger de Nicolas Lemieux,
okay,
le producteur qui m'a amené, entraîné dans cette aventure, qui me dit quasiment, je veux vous produire directement, c'est, parce que vous n'avez pas le droit de garder cette voix pour vous, vous devez la partager, mm-hmm, ça fait du bien de vous entendre, c'est les mêmes lignes qui reviennent, mais moi je ne t'ai pas préparé mentalement à ça. J'étais plus préparé à retourner à la campagne, m'enfermer pour écrire. Et je traînais des pieds. C'est Caroline qui m'a donné un coup de pied aux fesses, mm-hmm, en me disant, écoute, t'as une belle opportunité. Nicolas Lemieux, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a toujours été derrière de bons coups. Il dit, il te propose de t'amuser, même s'il n'y a pas une ambition professionnelle derrière. Vas-y, ok. Sur le moment, je n'ai pas pris de décision, je me suis parlé à moi-même. Et j'ai remis en perspective tous les signaux, partant de France Baudouin, Paul Oud, maintenant Nicolas Lemieux. Caroline m'a souvent dit, elle aimait m'entendre chanter, soit quand j'étais dans mon bureau à la maison ou dans la salle de bain, oui, tout à fait. Mais bon, tu sais, des proches, quand ils font des compliments, c'est relatif. Donc, alors, je dis à Nicolas, ok, on y va, mais c'est à tes risques et périls. Nicolas dit non. Je suis sûr de mon coup. Ouais. Je pense qu'on va faire quelque chose ensemble avec cette voix-là. Et je vais aller chercher deux réalisateurs, arrangeurs, compositeurs qui vont être dans le coup. En l'occurrence, Antoine Graton et Terry Butler, qui est pianiste. Et par la suite, il y a eu François Pilon qui s'est rajouté. Et ensuite, d'autres. L'orchestre national de jazz de Montréal, des chœurs, un quatuor et aussi un ingénieur du son magnifique dans une comment dire, un cadre très accueillant, le Piccolo Studio, où on a...
C'est l'un des plus grands du studio de Montréal.
Oui, je pense que c'est le premier d'ailleurs.
Le premier, ouais.
Et c'est là où on a fait l'essentiel du travail ensemble, parce qu'on a travaillé sur un autre, dans un autre studio, mais dans la phase de recherche pour la dizaine de morceaux de reprise, parce qu'on en avait plus d'une vingtaine de retenues, mais il a fallu élaguer. C'était difficile de délester... certains morceaux. Puis il y avait une dizaine d'originales aussi, de chansons. Et voilà, pendant 6 mois, on a travaillé en collégialité et ça a été fluide, harmonieux. Et on se disait à chaque jour, c'est bizarre, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun nœud. Peut-être qu'on est en train de faire quelque chose qui va effectivement faire du bien au monde, parce que c'est l'harmonie, c'est ça.
Mais je suis un peu surpris par l'hésitation que tu as eue, parce que, mais en même temps, surtout que tu l'as dit, je veux dire, tu es passé par le collège Liberman au Cameroun, qui, on le sait, était un collège, bon voilà, c'était les jésuites, mais il y avait la musique, on lisait le solfège, on apprenait le solfège,
tout à fait.
Donc, je veux dire, la musique, tu as baigné dedans toute ta jeunesse avant d'aller en France.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai, et en plus, il y a le pendant, c'est-à-dire que mon père était le premier à avoir une boîte de nuit au Cameroun,
voilà,
à Douala, le maire Mosma.
Voilà,
il y avait un orchestre, tout d'orchestre. Même Manu Dibango, quand il passait à Douala, il s'arrêtait là pour faire des bœufs avec les Toto Guillaume et compagnie. Mais mon père, il n'était pas question que je touche à un seul instrument. C'était interdit. C'est cette pression qui a fait que je n'ai pas vraiment poursuivi sur ce chemin-là.
Okay.
Et n'ayant pas, au-delà du collège, après le pensionnat, n'ayant pas eu l'opportunité de chanter en public, et étant resté longtemps sans m'exprimer sur ce terrain devant le monde, ça m'insécurisait.
Oui, hein,
de me retrouver à Radio-Canada devant un public, pas seulement dans la salle, parce que c'est tout le monde, c'est une des émissions les plus suivies. Mm-hmm. Donc, je voulais pas flirter avec le ridicule. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle j'hésitais. Mm-hmm. Mais au moment où, comme je le disais, au moment où on a répété, au moment où on a fait la mise en place, il y a eu une connexion, et c'est ça qui m'a rassuré. Mm-hmm. Disant, ok, c'est parce que j'avais un prof à l'école d'art dramatique qui disait, si vous êtes capable d'accrocher l'attention de 30 personnes dans une salle de cours, vous êtes capable d'en accrocher 300 dans une salle de spectacle. Mm-hmm. Donc ça m'est toujours resté comme GPS. Et c'est ça qui m'a rassuré de voir France Baudouin et son équipe émerveillée. Et au soir de la représentation, c'est tout le monde qui était
Content,
tout à fait. Mmh.
Alors, ça a donné Makakoto Jazz, un double album, donc 10 reprises, 10 chansons originales. Pourquoi le jazz? Je me serais attendu peut-être à un mélange aussi d'autres styles musicaux, mais c'est resté jazz.
Oui.
Pourquoi
jazz,
ce choix?
Jazz, le choix du jazz, parce que c'est la liberté.
Okay.
Le jazz, à la base, on improvise, on se répond, on fait des, comme du tennis. Mmh. On se renvoie la balle, mais il n'y a rien d'écrit à la base quand on faisait du... Quand on se réfère à comment le jazz se pratiquait. Mm-hmm. Donc, nous, on a voulu retourner à cet esprit-là. Et l'objet de cet album consiste à faire plaisir aux gens. Et donc, le jazz nous donne toute cette latitude-là. On se fait plaisir nous-mêmes, on s'amuse. Mm-hmm. Et si les personnes qui vont écouter cet album ressentent cet amusement, je pense qu'ils vont être heureux et notre objectif aura été atteint. Donc, le choix du jazz, c'est le choix de la liberté.
Tu disais tantôt qu'il y a eu... Bon, c'est un peu difficile d'élaguer certaines chansons, au moins la liste, pour n'en garder que une dizaine. Parmi celles que tu as gardées, pourquoi celle-là?
Le dénominateur commun, c'est l'amour. Parce que s'il y a un qualificatif à coller à ce projet, c'est l'amour. La compassion, la fraternité, la sororité. C'est davantage ça, parce que dans le monde actuel où les tensions, les crises, les guerres nous enserrent, on voulait pas aller dans le spleen, dans la tristesse, non, on voulait... Et ça s'était convenu avec le producteur et mes acolytes, compositeurs, arrangeurs et réalisateurs, qu'on apporte un peu de lumière. Mm-hmm. C'est ça.
Alors, il y a 10 chansons originales de Makakoto. Bon, là, je ne suis pas surpris parce que l'écriture, tu l'as fait depuis toujours. Mais là, on ne parle pas d'écriture d'une pièce de théâtre, on parle pas d'un scénario, on parle de texte pour les chansons. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement?
Alors, ce qu'on oublie souvent, c'est... Et ça, l'illustration, elle est patente. Quand... on se réfère par exemple à ce que j'appelle la 11e heure de l'album, c'est-à-dire le 11e morceau, Station de Vallière. On s'aimera encore. C'est un poème. La musique, quand elle est habitée par les paroles, c'est de la poésie. Donc c'est pas très étranger.
Comment est-ce que vous avez travaillé? Tu écrivais et y composais? Ou
j'écrivais, de musique et j'écrivais, après, composais, on se pratiquait.
Oui.
Et on s'adaptait. C'était passionnant parce que on a eu beaucoup de plaisir à faire ça.
En tout cas, il y a de très beaux textes. Il y a « On s'aimera encore ». Et puis « Quand le temps viendra ». En fait, c'est toute une histoire qui est racontée. C'était voulu comme ça.
Quand on a de la matière, on peut la mettre en perspective. C'est plus facile. De la matière, on en avait beaucoup. Et parlant de quand le temps viendra, ça, c'est un texte testament.
Il est très fort.
Je parlais à ma conjointe. Je lui ai dit, voilà, je t'ai tout dit. Si tout à l'heure je meurs, ben, tu écouteras. C'est ça. Et je pense que c'est un texte qui va parler à beaucoup de gens qui ne savent pas quoi dire à ceux qui restent ou à celles qui restent. Et ça rejoint effectivement le texte de Valéa.
La vie est si fragile et courte, mon amour, quand notre bonheur s'en ira. Vis et aime ta vie, mon amour, et jamais ne regrette rien.
Alors, il y a ces, bon, moi, évidemment, à titre personnel, il y a ces trois titres-là qui sont des titres en Douala.
Oui. Alors, parce que tu as mis ta patte là-dessus pour donner la forme Douala.
Modestement. Ces trois textes, trois chansons très très fortes. Pourquoi celle-là et quel lien entre ces trois chansons-là?
Alors, c'est,
on
c'est
commence par le Tété Combo qui est.
Oui, voilà. Tété Combo, je ne pouvais pas faire un premier album considérant qu'il fallait que j'inscrive dans ce projet une ou des chansons dans ma langue maternelle. Tété Combo a bercé mon enfance, c'est l'hymne des gens de la côte de Douala, c'est l'hommage à Rudolf Douala Manga qui fut un résistant, un souverainiste avant l'heure, c'est un Mandela avant l'heure même. Tu connais son histoire. Tété Combo était chanté par mon arrière-grand-mère très souvent, je l'entendais alors que j'étais encore tout petit. Et cette même arrière-grand-mère, Mangan Tonnet, elle s'appelait, qui est décédée à plus de 100 ans. Elle me chantonnait également pour m'endormir en Banutan Benebato. Moi qui autrefois avais du monde autour de moi, qui est une belle allégorie qui devrait intéresser toutes les personnes qui un jour se sont retrouvés sur la paille alors que tout se passait bien avant et qu'il y avait plein de monde autour. Mais une fois sur la paille, il n'y avait plus personne. Bref, c'était ça. Donc, il y a un lien avec ces deux-là. Et puis, la troisième...
Le Bianedi Bambé.
Bianedi Bambé. Ça me ramène au collège. C'est un appel à la solidarité. C'est un appel à la prise de conscience de soi, c'est un message christique, je dirais. Et tout cela a bercé mon enfance. Donc c'est la signature de mes racines. C'est ce qui justifie la présence de ces trois titres. Je ne peux pas les exprimer davantage au-delà, considérant le public qu'il n'y comprendra pas grand-chose, mais les messages sont là. Sauf que des gens qui viennent de la même région que moi, en l'occurrence, toi, tu comprends très bien la portée de la chose. Ouais.
C'est parce que là, je retrouvais, bon, il y a qui était convoqué cet hymne-là à ce roi martyr. Je retrouvais le. Bah, je dirais quoi, le résistant que tu as toujours été quelque part.
C'était notre modèle. Il a été un modèle transgénérationnel. Et c'est une chance qu'on ait eu d'avoir des parents qui nous en parlent aussi. Parce que c'est pas à l'école qu'on nous a appris son histoire. C'est à la maison, c'est dans les quartiers, c'est dans les villages. C'était, juste pour donner une idée aux gens, c'était le Nelson Mandela des gens de la côte du littoral. Et la figure de la résistance avant les Ruben Omiobe, qui a combattu le colonialisme européen par la suite. Rudolf était là avant, c'est ça.
Aujourd'hui, les planches, tu es le cinéma, l'écran, le grand comme le petit, tu as été. Là maintenant, il y a la chanson. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont dire qu'on le retrouve un peu partout?
Non, mais moi, ça me dérange pas. Je me sens libre. Je me sens libre. Et je me dis, si dans une même expérience humaine, sur cette terre, je peux vivre différentes vies, un peu comme les chats, quand ils... Tu sais, comment on dit que les chats ont 9 vies?
9 vies, oui, on
c'est
parle
ça.
De... 7 ou 9, je ne sais plus.
7 ou 9, oui, quelque chose. Ça. Moi, je pense que c'est 7.
Ouais, 7 vies.
Je m'inscris là-dedans. Si j'ai la possibilité de vivre des expériences enrichissantes humainement parlant et philosophiquement parlant, si à travers ces expériences je peux faire en sorte que un enfant, un adulte, une femme, un homme, soit dans sa tristesse, soit dans l'ignorance, entre guillemets, développe des étincelles d'espoir, ben ça me fait plaisir. Mm-hmm. En fait, dans tout ce que j'ai fait, mon but était de faire plaisir. Mon but au cinéma comme à la télévision était de faire plaisir aux gens. Mm-hmm. Mon but en politique, c'était de voir une famille, un jeune ou une jeune arriver dans mon bureau avec des problèmes plein la tête et le visage complètement fermé. Et de les voir ressortir de ce bureau avec le sourire jusqu'aux oreilles. Ça, c'était ce que j'ai toujours eu comme ambition. Et donc, je peux faire 1000 choses différentes qui n'ont rien à voir ensemble. Et ça devrait d'ailleurs rassurer. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. L'existence, dans l'absolu, on ne sait pas ce que c'est. Mais on donne du sens soi-même à son existence. Il n'y a pas d'école pour définir la vie, c'est comme ça qu'il faut la vivre. Non, chacun la vit à sa manière et fait des choix qui l'inspirent pour justement traverser pleinement cette vie.
Justement, le fait de ne pas être dogmatique, tu as même chanté en anglais.
Oui.
Ce qui va faire sursauter certains camarades de ta vie d'avant.
Oui, non, mais ce n'est pas parce que je défends la langue française que je honnie l'anglais. Ça n'a jamais été ça. Mm-hmm. Ça, si les gens le perçoivent ainsi, c'est une mauvaise compréhension. Je défends la langue française parce qu'elle est en danger. Mm-hmm. Mais je ne milite pas pour l'abolition de l'anglais. Mm-hmm. C'est absurde, je ne suis pas malade mental. Mm-hmm. Donc, mon militantisme pour la survie du français s'inscrit dans un cadre où tout menace cette langue. Les plateformes, les GAFAM de ce monde, les publications scientifiques, tout se fait en anglais. L'offre culturelle est dominée par l'anglais et j'ai toujours défendu la diversité culturelle et linguistique. C'est pas l'anglais qui est en danger en Amérique du Nord, c'est le français. Donc il n'y a rien de contradictoire. Et d'un autre côté, en faisant ce projet, j'étais pas en train de militer. J'ai inscrit dans cet album des chansons qui m'ont marqué à cause de leur portée, déjà, et leur beauté aussi. Fever, par exemple. Si faisait partie de la liste, c'est uniquement parce qu'au collège, c'était mon premier succès devant les camarades. C'était mon premier succès devant les camarades. J'avais à peine 16 ans quand j'ai chanté ça. Et j'avais repris ça, je pense, à l'aube de mes 18 ans. C'est aussi le cas quand je suis allé en direct de l'univers. J'ai choisi un gospel parce que ce gospel, on l'a chanté à l'église.
Tout à fait.
Donc mon militantisme n'est pas dogmatique comme tu peux le constater. Je suis un humaniste, donc je ne peux pas m'inscrire dans les dogmes. Si c'est l'anglais qui était en danger en Amérique du Nord, je militerai pour que l'anglais, disons, soit protégé au maximum. Mais c'est l'inverse, c'est le français. Et donc c'est important que des gens ait à l'esprit que c'est pas parce qu'on défend le français qu'on déteste l'anglais. Je ne déteste pas l'anglais. Et 90% des gens qui défendent le français en Amérique du Nord, ici au Québec ou dans le reste du Canada, ne détestent pas l'anglais. Ce qui les horripile souvent, c'est que ceux qui parlent anglais ne comprennent pas le danger dans lequel, dans le danger, disons, de fragilisation dans lequel est exposé la langue française.
Comment va l'artiste Maka Koto qui, évidemment, depuis quelque temps est reparti à Paris pour des raisons personnelles, il vit maintenant, comment se retrouver là-bas, comment ça se passe?
Ben, Paris, j'ai quitté Paris parce que j'ai vécu avant de venir au Québec. C'est Denis Laferrière qui est venu me chercher à Paris en 1988 pour travailler sur son projet ici au Québec. À l'époque, tout n'était pas parfait, mais il y avait néanmoins un semblant de décontraction, de plaisir d'être et de vivre. Depuis bientôt un an, j'ai remarqué que cette énergie a disparu. Du moins, depuis bientôt un an que je suis là. Parce qu'il y a beaucoup de tensions, sociopolitiques notamment. Il y a une guerre qui n'est pas loin. Et puis, on est à la veille des élections européennes. Donc, moi qui me nourris aux nouvelles, aux informations, quand je change de chaîne, c'est sur la guerre, sur la politique, et tout est toujours dans le négatif. Mais quand on sort de la bulle et qu'on va dans les commerces, par exemple, parce que dans les commerces, on en apprend beaucoup, on constate également que là aussi, il y a comme des nuages. Mais il y a des éléments invariables, la bonne bouffe, le bon vin, tout ce qui est
vie culturelle.
Vie culturelle est toujours vivant, mais il y a un déplacement des publics comme ici. C'est les plateformes changent, les gens regardent plus trop les films en salle, donc ils sont sur les plateformes Netflix, Apple, Amazon et Disney et compagnie. Même la culture de production cinématographique est en train de changer radicalement. Ce sont les plateformes qui font des commandes au bout de casting, d'agences d'artistes ou de production. J'observe pour l'instant, je contemple, parce que les repères que j'avais à l'époque avant de venir au Québec ne sont plus les mêmes. Donc il faut juste s'adapter. Mais je ne suis pas là pour longtemps, pas là pour longtemps.
Québec te manque? Qu'est-ce que, par moment, quand tu penses au Québec, qu'est-ce qui te manque étant là-bas?
J'ai pas eu le temps de penser encore, parce que ça fait pas longtemps que je suis parti. Mais là, oui, Noël, évidemment. Noël, c'est triste parce qu'il n'y a pas de neige.
Il n'y en a pas eu ici non plus.
Il n'y en a pas eu ici non plus. Mais les amis, les amis, vous me manquez. Ça, c'est clair, ça, c'est fondamental.
Ouais. Je veux finir avec une chose. C'est au cours d'une émission de télévision là, qu'il y a eu le déclic de la part de tout le monde et tout ça. Puis bon, finalement, ça a donné cet album d'art qui a un visuel magnifique. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est dans les MP3, là, mais j'invite les gens à voir le visuel. Il faut que tu reviennes sur scène.
Mais tout dépendra de l'accueil de ce premier. Cette première étape, disons ça comme ça. Je dis première étape avec l'espoir justement d'une deuxième étape.
Ok, donc de produire autre chose après.
L'exprimer sur scène, sur les planches avec l'orchestre et tout le monde est enthousiaste à l'idée de se retrouver devant un public et de faire ce qu'on ne pouvait pas toujours faire en studio, c'est-à-dire s'éclater vraiment. Et ce serait fantastique.
Ce serait combo, fantastique. Yes, combo. Imeyawa, ye di meyawa. Te combo, yes, combo. Imeyawa, ye jalebewa. Osi bané, eko mbwa gona. Bo, si wa menu tepe, nadi koti. Ko wango yangu, msonde nanga wa se. Nana banga jaso, ma fonde mon.
Mon nom est Cyril Ekwala. Si ma sawea, sango to muna bukanja. Si ma maoli pepine de ben babato.
Sandamamese,